Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes et de professionnels de la voix pour découvrir leurs astuces et vous aider à développer votre propre voix. Je suis Clémentine Coppolaigne, la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, mais aussi coach vocal et formatrice. La clé de la voix est en association avec la maison de la voix. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Pour le soutenir, mettez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je remercie ceux qui prennent le temps de le faire, mais aussi ceux qui partagent ou qui parlent du podcast. Ça m'aide beaucoup à le faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur laclédelavoix.com/3superexercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don dans le lien disponible dans la description du podcast. Pour toute demande de sponsor ou de collaboration, vous pouvez me contacter par mail laclédelavoix@gmail.com. Pour mon invité, le chant n'est pas une fin en soi, c'est l'improvisation. La liberté vocale qui lui permette de revenir vers sa nature initiale. Layla Martial joue avec sa voix comme le font les enfants. Cette approche de la voix plurielle lui demande une discipline de fer en matière d'échauffement vocal afin de ne pas se sentir limitée par la technique et surtout de ne pas forcer. Layla nous montre comment elle aiguise ses outils de vocaliste hors normes avec des gammes ou des exercices de rééducation vocale. Elle nous parle des pathologies qui ont touché sa voix quand elle avait seulement 18 ans, l'amenant à réapprendre à chanter différemment tout en empruntant le chemin de la connaissance de soi, la voix et l'identité étant puissamment liées. Layla Martial revient sur ses moments de partage avec les peuples nomades comme les Tziganes ou encore ses joutes vocales avec une chanteuse de gorge inuite ainsi qu'avec les pygmées Aka avec qui elle se produit actuellement. Je vous invite à découvrir les défis que se donne cette exploratrice virtuose en marge de tout jugement esthétique. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Layla.
Bonjour.
Alors je suis vraiment ravie de ta présence dans le podcast, je t'écoute depuis la sortie de ton tout premier album. Est-ce que tu veux bien revenir sur ton enfance, sur ton parcours pour que les auditeurs en apprennent davantage sur l'impulsion qui t'a amenée à devenir une incroyable vocaliste aujourd'hui ?
Alors, c'est une histoire qui a commencé tôt, mon amour avec, pour la voix et puis pour les sons. J'ai eu la chance de grandir, de baigner dans un univers de musiciens classiques. Mon père, oboïste et prof de musique, et puis ma mère, chanteuse lyrique. Donc, bon, je suis une enfant de la balle, comme on dit. Et donc, petite, j'entendais surtout de la musique classique et de la musique baroque. Je me réveillais avec France Musique, tout ça, et j'avais un père très pédagogue aussi, qui s'amusait tout le temps à me faire reconnaître les instruments, à faire des deuxièmes voix. Et très vite, j'ai eu envie de participer à ce que j'entendais. C'était vraiment le désir de rentrer en communication. Je pense qu'en fait, tout mon parcours, toute ma démarche, elle prend son impulsion là-dedans, l'envie de partager. Du coup, je chantais avec, et très rapidement, je me suis mis à imiter les étrangers, comme le font beaucoup d'enfants, et les langues étrangères. Et ça m'amusait énormément. Et je crois que j'ai continué à faire ça, en fait, jusqu'à aujourd'hui, en fait, toute ma vie, j'ai pas cessé de faire ça. Je sais plus quel pédagogue disait si un enfant, on le laisse jouer, il joue toute la vie. Puis c'est un peu ça, je pense que c'est très délicat de pas faire mourir le joueur en soi, en fait. Et c'est plein d'étapes dans la vie et j'ai l'impression que moi, j'ai eu la chance de toujours garder assez vivant cet enfant. Au niveau, en tout cas, ça passait par la voix et par les jeux vocaux. Je me souviens, puisqu'on parle de l'enfance, que j'avais un micro en plastique là qu'on avait trouvé à la foire fouille et je passais mon temps dessus et souvent je disais à mes parents que j'allais chercher mon microbe. Donc voilà. Pour la suite, j'ai été donc très tôt aussi au collège de Marciac, à l'âge de 10 ans. Interne là-bas, j'avais un copain qui était parti dans cet établissement et ça me semblait être la joie incarnée, cet endroit. Et mes parents ont accepté.
C'est jeune, hein, pour partir.
Oui, c'est jeune. Ouais, c'est jeune. C'est vrai que...
Et tu avais vraiment cette envie d'aller vers la musique.
Oui, mais je pense que ce qui m'attirait encore davantage, c'était la convivialité. Vraiment, quand je dis que pour moi, c'est la notion de partage et de fête vocale, en fait. Et là-bas, ça résonnait un peu comme ça. C'était plein d'enfants qui étaient toute la semaine à l'internat ensemble et qui faisaient de la musique. Enfin, dans mon imaginaire, c'était vraiment le paradis.
Super.
Et mes parents ont accepté. Je suis partie là-bas, mais c'était les premières promos marciacaises et on était la moitié de la classe était saxophoniste et l'autre moitié pianiste. Et on chantait comme ça. Ben, il n'y avait pas de velléité d'être chanteur. On était tous pianistes ou saxophonistes et puis après, on se catait. Et donc, mon approche vocale, elle a toujours été assez très spontanée, très déconnectée presque du répertoire vocal, mais plutôt connectée à l'instrument de la voix. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec au niveau plastique, au niveau réflexe, tout ça. Donc, et c'est pour ça que longtemps, je pense, j'ai eu du mal à me sentir chanteuse et que encore aujourd'hui, je dis vocaliste. Parce que j'ai l'impression que dans mon approche de la voix, il y a quelque chose qui a, pendant de longues années, n'a pas été lié au répertoire.
Mais vraiment au son.
Oui, vraiment au son.
À la musicalité.
C'est ça. Pour moi, c'était un instrument de partage, de communication. Donc, fallait que je travaille les réflexes. Et pour qu'il soit le plus réflexif possible, justement, cet instrument. Et ensuite, bah, le travail d'imitation, évidemment, de tout ce que je pouvais entendre. Et puis, un goût aussi pour la vitesse. J'aimais la virtuosité, la vitesse. Donc, essayer de me lancer des défis avec la voix. Essayer de plutôt me comparer à des saxophonistes, des instrumentistes dans leur approche.
Tu faisais tes gammes parfois avec eux, à la voix ?
J'essayais de savoir ce qu'ils travaillaient. Les exercices qu'ils avaient et puis de me les approprier.
Est-ce que tu te souviens d'exercices en particulier ?
Oui, c'était des exercices de triade ou d'intervalle, des montées de gamme sur la gamme par ton. Par exemple, si on a la gamme par ton, ouais, sur les modes. Bah, en fait, après, ça peut être des exercices de chant aussi. C'est des exercices d'oreille, on va dire. Et ça m'intéressait beaucoup de pouvoir entendre plus de choses et les entendre aussi plus vite. Voilà.
D'accord, donc vraiment le travail sur l'écoute.
Oui, et sur l'imitation, beaucoup. Ensuite, c'est vrai que étant jeune, quand j'ai découvert aussi le répertoire vocal et comment dire l'archétype de la chanteuse, ça m'a un petit peu révoltée. Je crois que pendant de nombreuses années, j'étais un peu une anti-chanteuse où il y avait quelque chose pour moi, comment dire, dans la représentation de la chanteuse qui était cette musicienne inférieure qui comprenait pas la musique et juste qui se contentait de suivre et qui mettait des belles robes. Il y avait quelque chose qui pour moi était dénigrant par rapport à la démarche que ça pouvait être d'être vraiment vocaliste. Et donc je voulais pas m'identifier aux chanteuses. Et donc pendant longtemps, je voulais me démarquer en fait de la communauté des chanteuses parce que et j'ai changé hein, aujourd'hui. Je pense que justement, il faut redonner ses lettres de noblesse à la chanteuse parce qu'en fait, il n'y a pas des vocalistes, des chanteurs, tout ça. Enfin, il y a plein de gens qui utilisent la voix de mille manières, c'est tout. Mais il y avait cette réputation.
Souvent, les musiciens de jazz, je l'ai entendu beaucoup de fois dire les chanteuses, elles connaissent pas leur tonalité.
Oui, et il y a quelque chose qu'on peut comprendre là-dedans. C'est vrai que la voix, c'est le seul instrument où on peut se permettre d'avoir aucune technique et puis de chanter professionnellement, d'avoir une carrière, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a eu pas mal dans l'histoire des chanteurs et des chanteuses, des gens qui étaient intuitifs, en fait, avec une connaissance complètement empirique, ce qui était pas possible pour un musicien qui devait connaître, qui devait avoir la culture, en tout cas, de son instrument. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Il y a être chanteur ou être chanteuse, c'est passé aussi par une formation solide, théorique. Voilà, enfin, dans les écoles, le niveau a beaucoup, beaucoup augmenté. Et puis, on peut parler le même langage, parce qu'en fait, il s'agissait de ça. Il s'agissait d'arriver à parler le même langage avec les instrumentistes et se comprendre. Quand on parle des structures, quand on parle des morceaux, des modes de jeu, etc.
Don't get it. De tes 19 ans, tu as fait des voyages immersifs musicaux à la rencontre des peuples nomades. Est-ce que tu veux bien nous raconter ?
Oui, parmi les musiques que j'écoutais quand j'étais gamine, il y avait aussi la musique tzigane. C'était une passion qu'avait mon père et cette musique, elle m'a vraiment transportée, vraiment. Et j'avais, je crois, le fantasme d'être une tzigane et de partir à leur rencontre. Et donc, je suis partie quand j'ai eu 19 ans. Et j'ai rencontré la communauté là-bas, en Hongrie. J'ai passé du temps avec eux. J'ai passé du temps dans un collège gypsy aussi. J'ai été avec un danseur gypsy. Bon, c'est sûr que là, on va dire qu'il y a eu une décadence de cette musique en Hongrie et qu'elle s'est un peu perdue. Et je pense qu'il y avait plus de vitalité en Roumanie. J'ai pas pu aller en Roumanie. Mais en tout cas. Ça m'a permis quand même d'aller au cœur, à la source de cette musique et voilà.
Tu as appris à faire des scats hongrois. Qu'est-ce que tu as appris comme technique de chant sur place par l'imitation ?
Alors c'était la musique tzigane, c'est une musique qui accélère comme ça. Il y a la chanteuse Mitsu,
oui,
qui est connue. Alors c'est des voix très. Très très guttural et en même temps assez enfantin, je trouve. Il y a quelque chose. Et après, il y a aussi les enfants, effectivement, qui chantent, puis qui portent. Hein. Ça envoie. Mm. Donc, j'ai vu ça, et puis, j'ai pas rencontré tant de musiciens que ça, hein, finalement, là-bas. Il se trouve que. Mon imaginaire et mes connaissances dans certaines techniques vocales, elles sont plus passées par les enregistrements que par le voyage. On va dire que le voyage, ça a été l'aboutissement presque d'un processus d'écoute. Que ce soit avec la musique tzigane ou avec la musique des pygmées. Bon, la musique des Inuits, c'est un peu autre chose. Ça, c'est une rencontre avec une chanteuse de gorge. Mais c'est vrai qu'il existe beaucoup d'enregistrements qui ont fait que j'ai imité, chanté avec. C'est vraiment ça que j'ai fait beaucoup.
D'accord, sans prendre de cours, ça a été vraiment par l'imitation d'après les enregistrements.
Oui, ça a été par l'imitation d'après les enregistrements et puis ensuite la mise en pratique dans des contextes de partage spontané, de jam. Moi, j'ai beaucoup jammé, j'étais beaucoup dehors à chercher le moindre guitariste, le moindre gars qui avait une guitare sèche et pour l'apostropher, lui proposer de jouer quelque chose. Et mon grand défi, c'était de faire croire aux autres qu'il s'agissait d'une vraie chanson alors que j'étais en train de l'imaginer sur le moment.
D'accord.
Voilà, c'était de faire de l'improvisation une vraie matière qui se tient en elle-même. Qu'on puisse pas se dire « Ah oui, bon, bah là, c'est le moment scat qui arrive après la mélodie. » Mais qu'on se dise que l'improvisation, qui est pour moi très différente du scat, hein. Le scat, c'est vraiment une impro assez codée, avec des onomatopées. Et alors que l'improvisation, ça peut être... Voilà, ça peut être ça. Ça peut être plein de choses. On peut se dire, bon, bah là, je vais jouer un morceau. Sauf qu'il n'existe pas avant qu'on le joue.
Et est-ce que tu as des pistes à nous donner pour les auditeurs qui ont envie d'aller vers l'improvisation ?
Oui. Alors déjà, j'en parle beaucoup parce que évidemment, ça vient de là, c'est l'imitation. C'est déjà de repérer ce qui vous plaît en termes de sonorité, et ensuite d'essayer d'aller au plus près en l'imitant, en le complétant, en l'harmonisant. Et pourquoi pas, par exemple, écouter des radios là. Je sais qu'il y a un portail radio avec les radios du monde entier pour entendre un peu ce qui se joue, comment ça se prononce, etc. Et ensuite, je dirais de pas avoir peur de la laideur, entre guillemets, en fait, ou de la disgrâce. Parce que la voix, c'est vraiment l'instrument qui permet d'aller chercher, c'est un instrument extrêmement intime. Il n'y a pas, dans la recherche, il ne devrait pas y avoir de notion de joli ou d'esthétique. Il devrait y avoir une notion de vérité dans le son, de recherche de quelqu'un de curieux. En fait, il faut être curieux de sa voix et de ses possibilités. Et après, on pourra se dire, est-ce qu'on le garde dans son répertoire, est-ce qu'on s'en sert ou pas. Mais ne pas se censurer au nom de l'esthétique et de ce qu'on a eu l'habitude d'entendre. Parce qu'il y a tellement de possibilités, la voix, elle peut tellement nous surprendre. Et on dit que c'est la fonction qui crée l'organe, par exemple. Et c'est pour ça qu'on a des larynx qui sont différents en fonction des pays. Parce qu'en fonction des langues qu'on a entendues, les cordes vocales se façonnent différemment. Et donc, plus vous allez ouvrir le spectre de ce que vous écoutez, plus vous allez modifier même votre organe, en fait. Votre organe, il se modifie par les oreilles. C'est ce que je pense. C'est que c'est en captant de plus en plus de choses et en les comprenant, en les entendant, vous allez pouvoir les reproduire et les réaliser et vous les approprier.
Et est-ce que tu veux bien nous parler de la rencontre que tu as eue avec la chanteuse de chant de gorge inuit ?
Oui, alors ma rencontre avec Marie-Pascale, c'était dans une salle parisienne, enfin un squat parisien, où elle, la générale où elle chantait en solo. Et j'ai été vraiment attrapée, vraiment profondément touchée par son chant et puis par sa technique aussi, par le son de gorge. Et c'était à la fois mystique et à la fois extrêmement technique. Donc je suis allée la trouver à la fin. Ça m'arrive pas tous les quatre matins d'avoir envie de vraiment faire quelque chose avec quelqu'un qui soit vocaliste. Et donc on a commencé à échanger sur cette technique et puis à travailler en duo. Voilà, puis c'est vraiment une joute vocale à deux femmes dans la tradition inuite. C'est des sons de gorge, elles font ça comme un jeu en attendant les hommes qui sont à la chasse ou ailleurs. Et c'est un jeu aussi de rapidité. Et celle qui suit plus, enfin celle qui décroche a perdu en gros. Et donc c'est tout en ping-pong. Et c'est des jeux de gorge, genre et donc le jeu, enfin comment dire, il y a l'expi et il y a l'inspi qui est sonore. L'inspiration est sonore aussi et l'expiration. Bon voilà, au début c'est un peu ça peut être un peu douloureux. Ça s'est fait progressivement et puis que je sais pas si je l'ai complètement acquis non plus parce que on gagne, plus on le pratique, plus on gagne dans les graves. Et puis surtout, au début, on s'essouffle, au début, ça gratouille un peu. Mais assez rapidement, on trouve une forme de transe. Et puis, la place dans la gorge, au niveau du larynx, se trouve par elle-même. Et assez rapidement, j'ai trouvé. Et j'ai pu avoir de l'endurance avec ça. Et il y a pas mal de vidéos hein, sur YouTube qui existe.
Au début, tu travaillais combien? 5-10 minutes par jour et puis petit à petit
Oui, c'est ça. À peu près, oui, au début. De toute façon, il faut toujours rester au contact de ce qu'on sent. Quand ça commence à chauffer, ben, faut arrêter. Mais n'oublions jamais que c'est un muscle aussi, les cordes vocales. Et donc, que si ça chauffe, c'est comme un sportif, ça peut être normal. Et puis, il faut juste pas se faire mal en insistant. Mais je veux dire que ça chauffe un peu. Et qu'on ait des exercices après d'étirements, de massages vocaux, par exemple ça, moi je les pratique, les massages vocaux, ronronnement profond, qui est un peu la mobilette, ou alors chuchotement profond, ça va pas s'entendre comme ça, mais c'est comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Et donc ça procure beaucoup de chaleur dans la gorge, et c'est une sorte de pré-bâillement aussi. Donc ça, je le fais, moi, avant de chanter, et puis je le fais souvent. Ma prof, elle l'appelait ronronnement ou chuchotement profond.
C'est un excellent exercice de massage, il est aussi préconisé par les orthophonistes pour la rééducation vocale.
Bah, c'est vrai que, pour le coup, moi, l'orthophonie, j'ai bien connu, parce que j'ai eu des soucis de voix très jeune. À l'adolescence, je perdais ma voix régulièrement. Et je mettais ça sur le compte de ma façon de chanter, très viscérale, presque, je sais pas, c'était pas canalisé du tout. Mais quand même, quand j'ai rencontré ma prof, qui a été ma prof pendant quelques années, chanteuse lyrique, mais avec laquelle j'ai fait surtout principalement de la technique, on a quand même décelé la présence d'un nodule et d'un sulcus par la suite. Ce qui faisait que j'avais une double pathologie, et pour moi, ça a été de découvrir ça à l'âge de 18 ans, en gros. Ça a été un bouleversement, on va dire, je crois, le plus gros bouleversement dans ma vie, parce que je chantais jusque-là des chants de zigane avec une voix de poitrine assez forte. Et bon, bah, je me faisais mal, hein, je perdais ma voix, etc. Mais j'avais ma façon à moi quand même de projeter le son. Tout a été à réapprendre, en fait. Comme si c'était un bouleversement d'identité profond, c'est-à-dire que je n'étais pas celle que je croyais, j'avais pas la voix que je croyais avoir. En fait, je suis une soprano coloratour qui, finalement, a bien fait de ne pas se lancer dans une carrière de lyrique, parce que je serais très frustrée, j'aurais des rôles de soubrette ou des petits rôles dans les opérettes. Mais en tout cas, il s'est agi de reprendre à la base toute la technique et de faire beaucoup de corps, d'étirements, d'échauffements, travail de la paille. Donc j'ai fait beaucoup de travail de rééducation, en fait. Et j'ai découvert... c'est là aussi que j'ai commencé la psychothérapie. Ça, c'est pour la petite parenthèse. C'est-à-dire que je pense qu'une démarche vocale profonde, elle entraîne tellement de bouleversements que c'est pas... si rare qu'on ait besoin aussi de comprendre des choses beaucoup plus profondément en soi et de faire le lien. Donc pour moi, c'est vrai qu'à 18 ans, il y a eu un nouveau départ et aujourd'hui, bon, j'ai eu une discipline de fer, on va dire, pendant 15 ans, j'ai suivi à la lettre les échauffements qui étaient plutôt de l'ordre de la rééducation, vraiment à la paille, des sirènes très fines, des sirènes granulées, voilà, et d'essayer de, à partir de ma voix de tête, de nourrir pour jamais forcer, en fait, pour essayer d'avoir un geste le plus installer des réflexes, en fait c'est ça, c'est que je me suis beaucoup appliquée à m'échauffer bien, déjà parce qu'il y avait une grosse différence entre ma voix au réveil et puis ma voix chauffée, c'était le jour et la nuit, donc je pouvais pas m'en passer parce que j'ai toujours eu envie d'avoir un organe complètement optimal pour faire ce que je voulais faire, ce que j'avais dans la tête. Et pour ça, il fallait que j'avais une voix opérationnelle, donc chaude. Et aussi, je m'échauffais pour installer des réflexes. Et que après, je n'ai plus à penser à tout ça. Je me souviens de ma prof qui me disait « Ce qu'on fait en cours, ça se passe ici. Une fois que t'es sur scène, tu oublies tout ça. C'est autre chose. » Et donc, pourquoi on travaille notre technique ? C'est pour installer des réflexes qui fait qu'on n'aura plus besoin d'y penser une fois sur scène. Et qu'on pourra penser plutôt à la musique, à la musicalité, à l'interaction avec les autres... à l'interprétation, enfin un tas de choses auxquelles il faut penser, faut être sur tous les fronts quand on est en train de jouer. Donc si en plus on se demande si techniquement ça va passer ou ça va passer, ça donne une latence qu'on peut pas se permettre d'avoir.
Et est-ce qu'il y a des exercices que tu aimerais nous partager ?
Il y a un exercice vraiment très très simple, c'est le fait de visualiser sa langue, donc d'avoir la mâchoire complètement décontractée, lâchée, et d'imaginer sa langue comme un tapis flottant. Et à partir de là, essayez d'émettre un son, par exemple, et il va pas être beau, hein, dans un premier temps. Et l'idée, c'est que la langue n'agit pas, elle bouge pas. Et donc, c'est de faire une attaque qui n'en soit pas une, en fait. Et au début, le son est moche, mais petit à petit, on trouve une qualité. Alors, ça donne, je sais pas, par exemple, tout relâcher. Et l'idée, c'est que au moment de l'attaque, on ne sente pas d'à-coups avec la langue. Et bon, moi, j'ai mis très longtemps à savoir faire ça, en fait. C'est comme le fait de pas dire E, O, I, et qu'il n'y ait pas ce coup de glotte au moment de l'attaque, mais de faire E, O, I. Et donc, que tout soit ouvert avant l'arrivée de la note. Et après, il y a cette sirène aussi, pareil, langue flottante. Pour moi, c'est la révélation, la langue. C'est quand j'ai appris que c'était l'organe presque le plus musclé du corps, parce qu'il s'arrêtait jamais. Même la nuit, il continuait de danser. Donc, et c'est souvent par là que vient le forçage. C'est la langue qui se crispe au moment des attaques et au moment du chant. Donc, tous les exercices qui vont se focaliser sur la langue détendue, flottante, non active, je trouve que c'est vraiment précieux. Toutes les sirènes aussi.
Est-ce que tu as travaillé aussi avec des crayons sur la langue ou en tenant la langue, en faisant des vocalises?
Non, j'ai pas travaillé ça.
Oh.
ta façon d'être sur scène. Quand on te voit en tant qu'auditeur, on ressent vraiment quelque chose de proche de la transe. Toi, comment tu le ressens? Qu'est-ce qui se passe quand tu es sur scène?
Je dirais que sur scène, je ressens une hyper-présence. J'ai l'impression que d'une part, il y a la musique qui me met dans cet état-là, mais il y a aussi la musique que j'ai choisie, qui est une musique quand même assez aventureuse, avec pas mal d'inconnus, et donc qui demande une hyper-acuité, une hyper-présence. Et c'est dans cet état que je me sens. Je suis pas dispersée quand je suis sur scène. Je suis pas déconcentrée. Je suis réellement là. Tout est canalisé pour que ce soit le meilleur de moi qui s'exprime, en gros. Donc c'est un état qui est quand même assez savoureux et très exigeant aussi.
Oui, tu as dit à la radio qu'il ne faut surtout pas faire ce qu'on sait faire sur scène, sinon on ne progresse jamais. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus?
J'étais peut-être un peu extrême de là à dire qu'il faut surtout pas faire ce qu'on sait faire. Non, je retire ce que j'ai dit. Par contre, je le complète. Je dis que il faut aussi se surprendre. Et il faut aller vers des choses qui sont limites, où on ne sait pas si ça va passer. Quelque part, bon, moi, je fais une musique de toute façon où j'ai fait la part belle à ça. C'est-à-dire la musique improvisée, la musique que je propose, c'est justement de, à découvert, être dans la recherche aussi, devant les gens. Mais moi, en tant que spectatrice ou auditrice, j'adore vivre ça. J'adore suivre le chemin comme ça d'un musicien ou d'un chanteur ou d'une chanteuse et de voir comment il va s'en sortir, comment il va réagir. C'est ça qui me fait progresser. C'est voir quels sont ses réflexes de musicien ou de musicienne. Donc moi, je trouve que, en fait, c'est généreux aussi de partager ça quand on est sur une scène et pas de juste réciter la leçon qu'on a apprise. Je veux dire, la leçon, elle est en train d'être découverte, d'être même rédigée, inventée au moment où on est sur scène. Pour moi, c'est un juste équilibre entre effectivement des choses qui sont acquises, mais finalement, les choses qui sont acquises, c'est des choses qu'on a répétées beaucoup. La plupart du temps, c'est ça. Hein, c'est pas ce qu'on vient de... C'est pour ça que je parle de réflexes à installer et de travail en amont. Et ensuite, sur scène, il faut avoir suffisamment de réflexes pour qu'on puisse avoir une part d'inconnu à partager sur le moment, avec les gens en présence, les musiciens, et le public.
Oui, tu participes à de nombreux projets, donc ceux qui sont à ton initiative, comme le trio Babox, mais aussi en tant qu'interprète ou comme invité. En ce moment, tu chantes avec l'ONG, pour qui tu as composé une chanson. Est-ce que tu veux bien nous parler de ces nombreux projets?
C'est vrai que j'ai une approche de la voix plurielle. C'est-à-dire que j'aime le... Comment dire, le travestissement vocal, l'imitation, comme je le disais. Et donc, j'aime aussi les collaborations diverses et variées. Et j'ai eu envie, depuis toujours, de me frotter à des univers différents, des gens différents, parce que à chaque fois, ils me permettent d'explorer et d'expérimenter une autre facette vocale. Et donc, là, récemment, avec l'ONG, j'ai composé une pièce. Effectivement, j'ai eu cet exercice-là, et c'était très enrichissant pour moi, parce que travailler en grand orchestre aussi, c'est complètement autre chose de retrouver son au milieu de tout ça, ses repères. Après, le travail avec Babox, c'est un travail de longue date. Avec Eric, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble, donc c'est vraiment un suivi intime, construction presque collective. Et c'est aussi un trio au sein duquel on peut s'expérimenter individuellement. Je peux amener mes nouvelles trouvailles. C'est en mouvement continuel, ce trio. Et ensuite, là, je travaille beaucoup sur mon solo à venir, qui sera l'objet d'un disque et aussi d'un spectacle. Et ça, c'est un gros projet pour moi, parce que c'est un projet que j'ai dans la tête depuis mes premiers pas sur scène. Depuis mon adolescence, et c'est pour moi le symbole de la, on va dire, c'est le rassemblement de toutes mes voix multiples, et donc c'est un gros challenge, ce solo, et en même temps la plus belle aventure à vivre, et je m'y attelle là depuis quelque temps.
J'ai hâte de découvrir ce projet solo. Et est-ce que tu veux bien nous parler de ton projet avec les Pygmées, la musique AKA?
Alors, la musique des Pygmées AKA, ça fait partie aussi des découvertes de mon enfance. J'ai beaucoup rêvé d'eux. J'ai rêvé d'être ethnologue aussi. C'était le premier métier que je voulais faire. Je m'imaginais dans les tribus à pouvoir... Donc, à amener encore une fois l'imitation vraiment très loin, c'est-à-dire d'être intégrée et de devenir une des leurs. Et il y a 2 ans ou 3, j'ai eu la chance de, par des connexions différentes, de réaliser ce rêve et de rencontrer les AK et d'imaginer un projet avec eux, avec un groupe Ndima, un groupe qui existe déjà. Et on est sur la phase presque finale de la création ensemble. La polyphonie, les polyphonies AK sont des trésors vocaux, en tout cas, c'est... Moi, le matin, ça marche mieux parce que j'la vois un peu plus cassée. Mais par exemple, pour faire ces polyphonies, qui c'est un yodel, la voix décroche.
Oui.
Finalement, d'avoir trop de techniques, d'avoir travaillé son passage, c'est pas forcément une bonne chose, par exemple, pour ces musiques-là.
Et oui, pour avoir ce décrochage-là, c'est plus difficile.
Et oui, c'est une tradition vocale qui est fantastique. Enfin, moi, je suis fascinée par ces chants-là. Et il y avait aussi la technique dans les bouteilles. Donc moi, ça, je l'ai beaucoup développé à ma façon. Eux, ils soufflent dans un rameau de papayer. Et puis moi, je souffle dans des petites mignonnettes.
Oh, j'adore. Est-ce que tu veux bien expliquer?
Ah oui, d'ailleurs, là, je m'apprêtais à aller chercher des mignonnettes pour faire une petite démo. L'idée, c'est donc d'avoir une petite bouteille. Eux, ils ont un rameau de papayer. Ils soufflent dans un bout de bois creux. Alors, eux, originellement, ils font ça dans du bois creux, dans un rameau de papayer ou un bois creux. Et ils soufflent dedans, ils alternent la voix chantée et le souffle dans le rameau. Et l'idée, c'est de se rapprocher au niveau sonore. Par exemple, si j'ai cette bouteille-là, je fais et d'aller note au-dessus, note en dessous. C'est une petite technique très amusante d'alternance.
Ouais, c'est génial. En tout cas, à écouter, ça donne envie d'essayer.
Thank you.
Savoir si tu avais des pratiques complémentaires qui t'aident à entretenir ou à dénouer des tensions dans le corps, qui est aussi ton instrument. Je sais que tout à l'heure tu parlais de travestissement et je sais que tu fais aussi des performances clownesques.
Oui, dans ma quête d'improvisatrice extrême, on va dire qu'à un moment donné, j'ai bien compris que la musique n'était pas une fin en soi pour moi, mais que l'improvisation peut-être en était une, c'est-à-dire la liberté sur scène. Et donc pour ce faire, j'avais besoin d'utiliser beaucoup plus mon corps. J'ai toujours été aussi très attirée par la danse et puis par le théâtre et le clown. Et donc, le clown, ça a été pour moi une grande révélation aussi. C'était comme retrouver la maison, comme retrouver quelque chose que j'avais toujours eu en moi. Mais il m'a fallu du temps pour assumer mes marginalités, on va dire. Parce que c'est quelque chose qui était très présent chez moi. Comment dire, j'étais exubérante petite et j'avais besoin qu'on m'entende, j'avais besoin de faire le pitre, etc. Mais c'était trop à un moment donné. Ça pouvait prendre trop de place. Et du coup, bah, tout comme le font les enfants, on commence à contenir, à faire de la rétention. Et puis, bah, la vie fait que, à un moment donné, ben, on revient vers ces impulsions initial et puis vers sa nature, on va dire. Et puis moi, quand j'ai découvert le clown, ça a été ça. Ça a été enfin. Voilà. J'ai une bonne raison d'être qui je suis. Et donc, j'ai travaillé, j'ai fait des stages. Et puis ensuite, j'ai commencé à amener ça sur scène puisque mon objectif, c'était aussi de faire des performances improvisées où je savais pas ce qui allait se passer et où j'avais des outils à ma disposition pour que l'outil le plus juste émerge. Et si c'était le corps, c'était le corps. Si c'était la voix, c'était la voix. Mais il en faut beaucoup du temps. Enfin, je veux dire, je suis encore du coup en apprentissage. Et idem avec la danse. J'aime beaucoup ça, j'en ai fait. Et je continue à en faire. Et du sport aussi, je cours. Mais parce que ça répond, comment dire, à ma démarche à moi. Ça va peut-être pas être la démarche de tous, mais comme moi, j'ai envie de gagner en liberté, que quelque part, je ne me sens jamais assez libre. J'ai besoin de travailler des outils qui vont me permettre une plus grande liberté de réaction aux choses.
Bye.
t'es engagée dans la rédaction d'un appel pour une écologie de la musique vivante. Est-ce que tu veux bien nous en parler ?
Alors, je suis ariégeoise, moi, donc je suis une fille des montagnes et la nature, ça a toujours été, ça a été mon environnement déjà. Et je suis assez sensible donc à la question écologique, tout ça pour dire ça. Et pendant le confinement, le temps s'est arrêté, enfin en tout cas les activités et les tournées effrénées. Et j'ai eu du temps pour me consacrer à des lectures et à la rédaction d'un appel écologique. Ça s'est fait suite à la lecture particulièrement de l'ouvrage d'Aurélien Barraud, Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, qui faisait un état des lieux assez dramatique de la planète, là où on en était. Et je me suis dit, il est pas possible qu'on participe pas à l'effort collectif, nous, dans notre métier. Parce que on est aussi dans une logique consumériste d'aller à l'autre bout du monde faire une date pour une société privée ou d'aller... Et que, quelque part, même, je dirais que ça s'est vraiment empiré parce qu'il y a 10 ans, il y avait encore des lieux qui fonctionnaient en réseau, où on pouvait aller dans, je sais pas, en Rhône-Alpes, il y avait plusieurs clubs qui proposaient d'enchaîner des concerts. Et aujourd'hui, tout le monde fonctionne isolé. C'est assez individualiste, mais parce que la logique du marché, elle a pris le dessus et que pour s'en sortir, on a l'impression qu'il y a que ça qui marche. Et du coup, on se retrouve avec une logique qui n'a pas de sens, en fait, qui est destructrice. Ou déjà, quand on va faire une date à l'autre bout du monde, est-ce que ça a du sens comme ça? En 24 heures, on rencontre pas vraiment les gens. Est-ce qu'on enrichit les gens là-bas? Est-ce que nous, on en revient enrichi? Je suis pas sûre. Je pense pas. C'était ça un petit peu l'idée de cet appel écologique, c'était de repenser à l'orée de la préservation, enfin de la sauvegarde de la planète, ben notre pratique artistique. Donc aussi des Catherine végétariens pour que les réflexes des structures changent un peu dans les réflexes de ravitaillement aussi d'aller localement auprès des producteurs locaux. Enfin, c'est tout un tas de démarches qu'on a mis comme ça en avant et de propositions. Et puis on fait un état des lieux effectivement de l'artiste aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'artiste star et de devoir repenser l'idée de repenser en fait le modèle d'un artiste qui réussit. Parce qu'effectivement on a tous envie de réussir, on a tous des modèles, mais à quoi il ressemble ce modèle? C'est ça qu'il faudrait un petit peu changer. Tout comme le fait qu'il y a de plus en plus de femmes musiciennes. Et ça c'est un modèle, c'est très très important de donner à voir ça aux petites filles par exemple. Pour qu'elle puisse s'imaginer un jour faire de même.
Oui, il y a une constance des personnes avec qui tu collabores. Je sais que tu as encouragé les musiciens Éric Pérez et Pierre Térégol à chanter. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux auditeurs pour les encourager ou les aider à se lancer dans leur pratique vocale?
Je dirais que tout comme on apprend à parler en parlant, je dirais que pour la voix, c'est pareil. C'est un organe qu'on a toujours avec soi. On peut pratiquer en permanence. Et sous plein de formes différentes. On peut pratiquer bouche fermée, on écoute, on essaie de reproduire, on peut écrire des chansons, on peut aller écouter des concerts, on peut prendre des cours, on peut voyager et puis essayer de... On peut parler avec des enfants en langage imaginaire, ça c'est génial.
Oui, je le fais beaucoup avec ma fille, elle adore ça.
Voilà. Ces jeux comme ça d'imitation avec les enfants, bah, eux c'est les bons clients. Voilà, de se dire, allez, on imite chacun son tour.
Oui.
Ce que fait l'autre. Et puis voilà, et puis on va rire, déjà. Déjà, en fait, la voix, c'est la joie, je dirais. C'est un instrument qui permet de s'amuser. Pour moi, c'est avant tout ça. C'est pour ça que je me situe un petit peu à l'écart des fois de considérations esthétiques, de ce que c'est que bien chanter, etc. Je pense qu'en fait, bien chanter, c'est surtout chanter avec sincérité ce qu'on sent. Et qu'on est loin d'avoir entendu tout ce qui est possible avec une voix.
Oui, c'est vrai.
Mais parce que forcément, il y a tellement de choses qui sont déjà faites avec la voix. On parle avec, donc on l'utilise tous les jours. Et on entend aussi des chansons, la musique qui a été écrite. Mais c'est infini. Peut-être que, en fait, quand tout aura disparu, il restera une voix.
Thank you. give upon getting it all. You've walked enough to know that tomorrow won't be better than today, and you won't be greater, wiser, clearer. Realize how perfect you are. You are simply alive, like a tree passing through the sea. We just have to be. Just be the air coming in and the breather. Just be. Just be the song that you wrote and the listener. Just be. The air coming in, coming in, coming in, coming in.
Est-ce que tu veux bien nous parler de tes dates à venir, des prochains événements? Je sais que tu as une actualité bien chargée pour cet automne.
Alors, j'ai un rendez-vous avec Babox très bientôt, enfin régulièrement de toute façon, on a des concerts avec Babox. L'Orchestre National de Jazz, on va jouer à la Philharmonie bientôt. Et puis, c'est vrai que l'automne sera surtout occupé par le projet avec les Pygmées AK. Donc on sera 3 semaines en résidence et puis on fera nos premiers concerts à Paris, puis à Lyon, puis à Marseille, vers là-bas, à Berlétan. Et puis ensuite, à la fin de l'année, du solo. Régulièrement, je rentre dans ma grotte pour travailler là-dessus, sur mon solo, et puis écrire. Et puis me familiariser avec ces outils d'Ableton, et tout ça. C'est très long.
Pour terminer, je voulais te demander, quel chanteur, chanteuse ou professeur de chant francophone aimerais-tu écouter dans le podcast ?
Eh ben, André Mainviel.
D'accord. Pourquoi ?
Parce que je trouve, je l'ai encore écouté ce samedi, là, en direct. Je trouve qu'il a vraiment une façon assez exceptionnelle de chanter le français, de le faire swinguer, danser comme ça. Il y a une vraie grâce que j'ai pas entendue de cette façon-là.
Ben, merci beaucoup. J'étais très heureuse de pouvoir échanger avec toi.
Ben, moi aussi. Merci beaucoup, Clémentine.
Ben, merci à toi et je te dis à bientôt.
À bientôt. Au plaisir.
La clé de la voix, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain. Pour découvrir les coulisses du podcast, les citations des invités, retrouvez-moi sur Clémentine Coppolaine sur les différents réseaux sociaux. Comme toujours, les notes de l'épisode sont en description, ainsi que des exercices gratuits à télécharger. Le lien est en barre d'infos ou sur lacledelavoix.com/3superexercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Merci d'avoir écouté La Clé de la Voix. Je vous souhaite une belle pratique vocale.